Bon vendredi à tous et à toutes. Raymond Poirier avec vous jusqu'à 18h30 pour cette troisième édition de La Vie en BD. Un plaisir, bien entendu, de vous retrouver ici sur les ondes du 89.1 et on mentionnait tout à l'heure une très, très belle émission également pour vous aujourd'hui. On aura notamment l'occasion de jeter un coup d'œil sur l'album Reconquête, tome 1, La Horde des Vivants, en compagnie de son dessinateur François Miville Deschênes. Très, très belle bande dessinée d'ailleurs, dessin réaliste, une fiction historique. On aura l'occasion d'explorer un peu les tenants, les aboutissants de tout ça. Également, un événement qui se prépare à Québec, en fait, c'est pour demain et dimanche à l'Université Laval. Et j'ai envie de dire, en fait, qu'on va aller un peu autour de l'univers de la bande dessinée avec cet événement-là. C'est dédié au manga, à la science-fiction, à la culture japonaise sous tout azimut. Ça s'appelle Cap et Kimono. Il y a du cosplay là-dedans, il y a des panels, il y a des projections. Alors, ça nous semblait très, très à propos d'aborder cette activité ici à l'émission. Également, nos collaborateurs qui seront avec nous, notamment Stéphane Gravel dans quelques instants, qui sera de passage pour nous parler BD. Il va nous parler notamment de l'album L'Empile. Également, en fin d'émission, Thomas-Louis Côté sera de passage. On va jeter un petit coup d'œil notamment à ce qui s'est passé tout récemment à Gatineau, les rencontres préparatoires autour de leur festival de bande dessinée. On verra ce qui en est ressorti. Mais également, le cœur de la chronique de Thomas-Louis pour cette semaine, la bande dessinée et le cinéma, lorsque le 9e s'en va vers le 7e, il y a des Schtroumpfs qui a fait un tabac, il y a Tintin qui s'en vient. Alors, on aura de quoi se mettre sous la dent lors de cette intervention. Alors voilà, ça c'est le menu pour aujourd'hui. Et sinon, au menu également, petite mention au passage, tiens, on a l'ami Uderzo, Albert Uderzo, créateur, bien entendu, co-créateur d'Astérix et Obélix, qui a rien de moins que passé le crayon cette dernière semaine. En fait, il a décidé de se retirer en tant que dessinateur et scénariste de la populaire série. Il a annoncé également qui le remplacerait. Il s'agit de Jean-Yves Ferry. Ce n'est pas par hasard, d'ailleurs, nous dit-on, ça fait un bout de temps qu'il y pense. C'est un complice également à certains égards de M. Uderzo. Ah ben voilà, donc Astérix vivra après le départ de son créateur. La mention est en fait, on s'en va en musique brièvement, comme à l'habitude, une sélection par semaine qu'on vous propose, une petite découverte. Et cette semaine, eh ben, on tend l'oreille vers un duo suédois qui s'appelle Sagar and Swing. On va aller faire un tour en 2001, date de leur premier opus qui s'appelle Orgel Farger. Et vous allez voir, en fait, ils s'amusent beaucoup avec le clavier Casio et la batterie. On en écoute un petit extrait. un petit extrait de Sugar and Swing ici à CKRL. Et bien entendu, en fait, ça swing pas tant que ça, mais c'est pas le but. C'est pas le but de ce duo suédois. Et ben peut-être qu'avec cette musique, on a mis également la table pour l'intervention de Stéphane Gravel, commentaire bande dessinée cette semaine. D'abord, ben Stéphane, bonjour.
Suis-je si lent?
Non, mais en fait, la BD dont tu vas nous parler s'appelle Pauvre l'Empile. Alors, je me suis dit, il y a peut-être une certaine tristesse là-dedans.
Du tout.
Il faut pas chier au titre, ça veut dire.
Écoute, c'est une réédition qui vient de paraître chez Dupuis des aventures du pauvre Lampel. C'est dessiné par Willy Lambel. Willy Lambel est le dessinateur de la série Les Tuniques Bleues. Et c'est scénarisé aussi par Raoul Couvin. Raoul Couvin qui, lui, est le scénariste des Tuniques Bleues. Les Tuniques Bleues, c'est une grosse série là chez Dupuis. Ça a marché pas mal. Je crois que ça fonctionne encore fort. Et puis là, avec Pauvre l'Empile, eh bien, c'est tout à fait autre chose. Ça se situe dans les années 70, là, le départ de cette BD-là. C'est quand les éditions Dupuis ont essayé de renouveler toute leur école, si on veut, et tous leurs jeunes auteurs. Ils avaient parti la série qui s'appelle Carte blanche, qui donnait justement carte blanche à des jeunes auteurs de bande dessinée de pouvoir faire ce qu'ils veulent, souvent en gag d'une page ou deux pages. Et ça a amené un paquet de jeunes auteurs qu'on a vu après ça dans le journal Spirou. Et dans ce format-là, Raoul Couvin et Willy Lambert avaient décidé de faire une parodie du monde des éditions Dupuis avec une BD qui s'appelle Pauvre l'Empile. Willy Lambil disait lui-même « L'Empile, ce n'est pas l'Empile, mais c'est l'Empile qui ressemble à l'Empile, mais sans être l'Empile. » Fait que tu vois un petit peu le genre d'humour. C'est de l'humour caustique, c'est de l'humour... les auteurs, ça se passe dans un monde de bande dessinée, c'est ça qui est le fun, là. C'est que c'est le scénariste et le dessinateur qui ont une relation un petit peu difficile. Et cette difficulté-là augmente avec... Il y a eu 7 volumes à peu près de Pauvre l'Empile.
Et plus ça va, plus c'est difficile, dans le fond.
Plus ça va, plus c'est difficile. Mais dans la vraie vie, là, ils se sont plus parlé pendant 4 ans, ces deux-là.
Donc ça reflète un peu la réalité, dans le fond.
Au-delà de refléter la réalité, je pense que ça a créé la réalité. Uh-huh. C'est-à-dire que d'avoir embarqué dans cette aventure-là, d'avoir été aussi sarcastique un envers l'autre, les susceptibilités se sont installées, l'ambiance est devenue un peu tannée de se faire voir comme un dessinateur loser de troisième ordre de chez Dupuis qui a jamais le moral et qui sait jamais quoi faire. Et je pense que ça a miné leur relation. Et puis à un moment donné, il y a eu une période où les deux artistes se sont boudés pendant 4 ans. Ils ont continué à faire les Tuniques Bleues quand même parce que les Tuniques Bleues, c'était incontournable chez Dupuis. On voulait que les Tuniques Bleues, ça se poursuit. Mais ça se faisait par courrier. Couvrin envoyait les scénarios. L'Ambile les dessinait sans aucun contact. Il répondait pas au téléphone quand c'était Couvrin qui appelait. Et les deux pauvres se sont boudés comme ça pendant quelques années.
Alors, je te lance deux questions face à ça, Stéphane. Premièrement, est-ce que la réalité, dans le fond, derrière le scénario, enrichit un peu, justement, le rythme, l'esprit de la bande dessinée? Et de B, puisqu'il s'agit d'une réédition, est-ce que ça a bien vieilli aussi?
Écoute, là, je peux pas répondre à la question 2 sans me compromettre. Mm-hmm. Et que ça... C'est un temps qui a été figé. C'est une série qui a été un petit peu oubliée, qui était 2 pages dans le journal Spirou. En 1970-75, j'avais 8 ans, puis j'ai lu Pauvre l'Empile jusqu'à 15 ans. Puis c'est comme quelque chose que je trouve tellement fascinant et je suis tellement heureux de relire ça parce que c'est le type de série qu'on a vraiment oublié. Mm-hmm. C'est-à-dire que quand j'ai revu ça, j'ai dit « Ah mon Dieu, oui, c'est vrai, c'était bon. » Et en le relisant, je me suis dit « Non, c'était pas bon, c'est bon. Mm-hmm. C'est drôle, ils sont drôles. » Puis écoute, l'interrelation entre les deux personnes est tellement crédible, est tellement drôle, est tellement absurde et crédible en même temps. Puis c'est tellement des relations de travail de tous les jours qu'on peut pas ne pas s'identifier à un ou s'identifier à l'autre ou encore voir quelqu'un de notre entourage qui pourrait être un de ces deux personnages-là. Puis c'est dans le quotidien, c'est chez Dupuis, c'est des auteurs de bandes dessinées qui font la BD. Donc, déjà au niveau de l'histoire, au niveau de la scénarisation, je trouve ça toujours intéressant, moi, de mettre comme ça en abîme le monde dans lequel on est. Et là, le niveau de narration, ben, il peut y avoir différents niveaux de lecture, ça devient extrêmement fascinant.
Mais enfin, ben, on peut être au courant justement des difficultés qu'ils ont connues, on peut ne pas du tout s'en soucier. Il y a un niveau de lecture la BD, il y a le niveau de lecture peut-être de la réalité derrière les BD, du jeu entre les auteurs. Donc effectivement, ça doit être assez riche, là.
Oui, c'est riche et c'est bien fait, ce qui fait que ça pourrait être deux policiers, puis ça serait pas grave. La relation entre les deux personnages pourrait être la même si c'était deux policiers dans la même voiture, là. C'est juste qu'ils incarnent leur monde à eux, celui de la BD. Ils placent les éditions Dupuis, donc le pouvoir de l'éditeur sur leur travail. Puis là, ça crée encore toute une autre dimension. C'est très, très chouette. Puis en parlant des éditions Dupuis, ben là, ils ont fait un très beau travail au niveau de l'impression de cette réédition-là. C'est-à-dire qu'elle est très belle. C'est augmenté de petits dossiers, de petits textes. C'est quand même une BD qui est assez chère parce que c'est l'ensemble de l'œuvre. C'est-à-dire qu'il y a eu 7 albums. Ce sont les 7 albums qui sont là-dedans. Ça a 350, 360 pages. Donc, c'est un album plutôt volumineux. Mais il est autour de 50 quelques dollars quand même.
Mais on peut dire que ça vaut l'investissement.
C'est cette BD. Ouais. Puis c'est du grand classique, bien fait, bien dessiné, c'est bon et c'est brillant. C'est incontournable, je pense, dans une bibliothèque de fous.
Que dire de plus? Alors, pour Pauvre Lampil, donc réédition chez Dupuis, est-ce qu'on va jusqu'à dire que c'est un peu un incontournable si on est intrigué un peu par cette série, si on aime les auteurs, eh bien, il faut aller mettre la main là-dessus, profiter de la réédition, justement.
Oui, il faut profiter de cette réédition-là. Je pense que c'est un... ça reste une BD qui est dans les classiques, là. Lampil, je ne sais plus comment le nommer, un dessin qui est très, très, très digne des éditions Dupuis, des années Franquin et des années Peillot et compagnie. Il est vraiment dans cette école-là. Et je pense que ça vaut au moins la peine d'aller à la bibliothèque, puis de le prendre, puis de le lire, parce que c'est chouette. C'est une BD qui est chouette.
Alors, ben voilà. Pauvre Lampil, je le rappelle, et à tout le moins un détour à Gabriel Roy pour aller jeter un coup d'œil là-dessus et peut-être ensuite dans les librairies. Stéphane Gravel, merci beaucoup.
C'est Noël qui s'en vient. C'est surtout que je pense que c'est plus un cadeau de Noël. On a toujours d'autres choses à faire avec ça.
Pourquoi pas? on se dit à très bientôt.
Oui, à dans 2 semaines.
Merci beaucoup.
Bye.
Ben voilà, donc je rappelle Pauvre Lampil, commentaire BD de Stéphane Gravel. petite ambiance de recueillement ici à CKRL avec cette pièce de Slagor et Swing. On fait un petit extrait donc de Slago Slepet et donc tiré de cet album, on le rappelle, Orgel Farger. On est en 2001 dans notre sélection musicale de cette semaine. Et ben, pour la prochaine BD, on va aller un peu plus loin que 2001. En fait, c'est de l'histoire fiction qu'on pourrait situer peut-être autour du 8e siècle avant Jésus-Christ. C'est un très bel album qui vient tout juste d'arriver chez Lombard. C'est de François Miville-Deschênes et Sylvain Runberg. Ça s'appelle Reconquête, tome 1, la Horde des Vivants. Et pour nous en parler, ben, François Miville-Deschênes est au bout du fil. Bonjour.
Oui, bonjour.
Ça va bien?
Oui, très bien.
Oui, parce que là, en fait, le lancement est fait. Vous avez déjà pu aussi confronter les premiers lecteurs, peut-être, de Reconquête avec un passage à Comic-Con à Montréal, un lancement à Planète BD. Jusqu'à maintenant, content de la réaction que l'album a reçue?
Oui, oui, oui. Là, on parle évidemment de l'effet sur les lecteurs québécois parce qu'en fait, l'album est sorti en mai en France. Puis j'avais pu juger justement du bon accueil sur place à ce moment-là.
Et donc, il y a une adéquation entre les deux accueils.
C'est exact.
Peut-être pour se situer dans la petite histoire, en fait, Reconquête, c'est votre première collaboration avec Sylvain Runberg. Qu'est-ce qui a amené à cette collaboration-là?
Sylvain me courtisait depuis déjà un certain temps. Il avait lu ma bande dessinée chez les Humanoïdes Associés, mon autre série, Millénaire. Puis, il était intéressé à collaborer, mais ça coïncidait jamais. J'étais pris par autre chose. Puis, bon, mais quand les Humanos ont eu quelques cafouillages de triste mémoire, je l'ai contacté, puis je lui ai dit simplement que, bon, ben, le moment était venu, puis s'il était toujours intéressé, on pourrait proposer quelque chose. Ça s'est fait très, très rapidement. On a pondu quelques lignes qu'on a soumises à deux éditeurs d'abord, chez Dupuis puis au Lombard. Et le temps d'une fin de semaine, c'était réglé. Le Lombard se manifestait le lundi matin.
Donc, ça s'est passé assez rondement. Et ensuite, fallait le faire, l'album, bien entendu. Et de ce que j'en comprends, bon, vous êtes dessinateur, Sylvain Runberg a surtout agi comme scénariste, mais en même temps, c'est pas tranché. C'est vraiment un album qui s'est fait à quatre mains. Là.
Oui, oui, oui. Puis c'était délibéré aussi. Je m'immisce de plus en plus dans le scénario. C'est volontaire, étant donné que, bon, les enfants grandissent, puis que j'ai un petit peu plus de temps. Je participe au scénario en vue, justement, pour les... Peut-être la prochaine série, le prochain projet, faire scénario et dessin.
Et pour Reconquête, je l'ai un peu situé côté époque. En fait, on s'intéresse à des peuples nomades d'Asie centrale. On est à quelque part autour du 8e siècle, enfin, entre le 7e et le 9e, si on veut ouvrir un peu plus laxe. C'est un récit qui vous place donc en plein dans le monde de l'histoire fiction, dans le fond.
Oui, ben oui, c'est vrai. En ce qui concerne le récit lui-même, oui, c'est de la fiction. Visuellement, je m'attache quand même à représenter le plus correctement possible, selon ce qu'on sait aujourd'hui, les peuples en présence, les protagonistes de l'histoire. Mais le récit lui-même, effectivement, l'alliance de trois peuples nomades contre un ennemi commun, est fictive.
Et c'est intéressant parce que le côté historique, justement, on sent qu'on est ancré dans une histoire qui est réaliste. Et j'ai l'impression qu'on se laisse aller plus facilement à la fiction parce que, justement, le concept visuel, si on peut dire, de l'album, la facture, nous semble justement très, très crédible.
Ben, je pense que, justement, le mot est là crédible. D'aller le plus près possible d'une véracité historique, ça crédibilise l'environnement et tout ce qui s'y rattache. Ce qui fait qu'on peut saupoudrer ici et là quelques éléments peut-être plus fantastiques, mais on n'en veut pas trop quand même. Moi, je souhaite pas faire une énième bande dessinée d'Heroic Fantasy, là. Je trouve qu'il y en a déjà beaucoup. Alors, non, on voulait garder un côté très historique, mais en même temps se laisser aller quand même à quelques petites facéties historiques.
Oui, ben en fait, c'est un bel équilibre, j'ai l'impression, à tenir, justement. Il y a quand même un petit côté, comme vous avez dit, il y a du fantastique, il y a un côté très réaliste, il y a de la fiction, il y a du dialogue, beaucoup de rapports humains, mais en même temps, c'est une série très guerrière, avec quand même une certaine sensualité, sexualité et violence aussi. Donc, c'est tout en équilibre, Reconquête, là.
C'est très gentil, merci. Mais oui, effectivement, on peut pas éviter qu'un tome 1 soit, dans un certain sens, destiné à placer certaines choses. C'est ce qu'on fait. On peut pas l'éviter, surtout avec quand même quelques personnages qu'il faut quand même présenter au lecteur. Moi, je trouve que c'est balancé. Il y a un équilibre entre les scènes plus tranquilles, les séquences d'action et tout. Oui, on est assez content.
Et j'ai l'impression aussi que ça devait être un univers pour un dessinateur, surtout un dessinateur qui avait travaillé pendant un temps sur une série en noir et blanc avec Millénaire, de retrouver comme ça la couleur avec les steppes, les plaines et le reste, ça devait être quand même assez satisfaisant.
Oui, puis mon intervention graphique aussi touche la nature. Je voulais, et je veux encore d'ailleurs dans les autres albums, qu'elle soit très présente, là. C'est quelque chose que j'ai du plaisir à dessiner. Dans ma série précédente, effectivement, je réalisais les planches en noir et blanc, puis je donnais des indications, je fournissais le matériel pour la mise en couleur à un coloriste qui faisait la coloration à l'ordinateur. Et évidemment, faire affaire avec quelqu'un d'autre sous-entend forcément que ce ne sera pas exactement comme on le souhaitait, puis c'était le cas. La couleur directe, celle que je pratique actuellement, me donne entière satisfaction. Tant pour l'imprimerie aussi, tant pour le résultat imprimé, parce que quand on met les planches originales à côté des planches des pages de l'album, il n'y a pas une grosse différence.
Et à l'intérieur de ce dessin-là aussi, ce qui frappe, j'ai l'impression, dans Reconquête, en même temps, on lance des indices pour les auditeurs, auditrices là-dessus, mais il y a une grande attention à l'anatomie. Vos personnages sont souvent dénudés dans des poses qui ne sont pas toujours évidentes non plus. On sent qu'il y a quand même une certaine recherche, j'ai l'impression, côté dessin pour s'assurer, encore une fois, que les poses, que les postures soient réalistes au niveau musculaire, par exemple.
Oui, ben ça, c'est un plaisir de dessinateur réaliste. Effectivement, j'aime beaucoup l'anatomie animale, l'anatomie humaine aussi. Vous l'avez mentionné, oui, il y a quand même de la nudité, mais c'est l'histoire qui l'impose, l'histoire avec un grand H. Certains, dans les commentaires qui sont sortis, me l'ont reproché un peu, mais je dois dire que si j'avais traité une autre époque, la Nouvelle-France chez les Algonquins, ou même le Gabon que j'ai connu quand j'étais jeune, il y avait beaucoup de bustes dénudés. Je me demande si on me l'aurait reproché aussi. Fait qu'évidemment, la bande dessinée se déroule en partie chez les Amazones, puis à l'époque, on ne s'habillait pas beaucoup, faut avouer. Même, c'est l'époque de la Grèce aussi, la Grèce dans sa gloire, puis si on se promenait dans les rues d'Athènes à ce moment-là, les gens étaient très peu couverts, hein, même parfois dans le plus simple appareil.
Et est-ce que vous travaillez avec des modèles dans certains cas pour certaines poses, ou c'est un peu sur la planche en esquisse que vous trouvez la bonne posture, la bonne tension?
Ouais, non, j'ai pas ce luxe-là dans mon temps, et les journées de travail sont tellement courtes que je dois y aller comme je l'imagine. Oui. Il peut arriver quelquefois que mes proches, surtout ma conjointe, me servent de modèle pour certaines poses. Quand on parlait de naturel, là, comme par exemple un personnage qui doit porter un objet d'un certain poids, des fois, pour que le geste soit plus vraisemblable, bon, je peux lui demander quelques instants de prendre la pose, puis je croque sur le vif, mais c'est assez rare, d'ailleurs. Non, j'y vais comme... Elle va comme je te pousse.
Et d'ailleurs, en fait, les gens qui visitent votre site, en fait, miville-deschenes.com, peuvent trouver quand même pas mal de travail d'esquisse aussi. J'ai l'impression, en fait, qu'on se familiarise un peu avec l'album et que ça vous donne aussi un terrain de jeu pour essayer des choses en route vers l'album aussi.
Oui. Puis il y a une partie aussi de réchauffement. Avant de travailler, souvent, le matin, je vais griffonner des trucs qui sont en droite ligne avec le sujet que je vais traiter sur la planche dans la journée. Alors, effectivement, oui, c'est un des avantages de la technologie, quelque chose que j'ai pas connu étant jeune, puis que j'aurais certainement adoré de voir les dessous d'un album. Ça m'aurait fasciné, évidemment.
Oui, effectivement. Bien, en fait, de voir le style progresser aussi, puis en même temps, j'ai l'impression que pour les gens qui vous suivent, bien, ça permet de voir aussi un peu quelle orientation vous allez donner, ça permet peut-être un rapport un peu plus direct avec les lecteurs.
Oui. Et oui, il y a des commentaires à l'occasion, même des demandes spéciales. Il y a un des lecteurs que j'ai rencontré à Paris, puis qui a suivi la progression, la réalisation de l'album sur Internet, m'avait lancé plus ou moins le défi d'insérer, de cacher quelque part dans l'album un animal. Puis, j'ai répondu à son défi, puis je l'ai caché. Il s'agit d'un axolote.
OK, donc on regarde sur Internet pour savoir qu'est-ce que c'est et on cherche dans Reconquête après. Donc, un axolote. Je répète, je lance le défi aux auditeurs, auditrices. Tiens, allons-y avec ça. Et je le mentionnais tout à l'heure, François Miville-Deschenes, dans l'album, tout est en équilibre, mais il y a beaucoup d'importance qui est donnée, dans le fond, au rapport entre les personnages. On sent que c'est vraiment, en fait, du moins j'ai l'impression que c'est cet axe-là que vous allez développer dans les prochains albums, donc toutes les luttes internes entre les différents protagonistes, dans le fond. Là.
Oui, Oui. Puis, du point de vue du scénario, c'est vrai que c'était le but, pas faire simplement une bande dessinée guerrière, mais de suivre chaque personnage qui, je dois l'avouer, chacun ne sera pas forcément ce qu'il semble être dans ce premier tome-là. Mm-hmm. Certains peuvent sembler un peu caricaturaux ou bon, il y en a qui ont la mèche courte, comme on dit, mais ils ont chacun leurs particularités et leurs petits secrets qui vont se dévoiler peu à peu.
Et avec Reconquête, on s'en va vers un 4 albums, je pense?
Oui, c'est ça, c'est un cycle 4.
Donc déjà, on peut imaginer que vous avez un plan assez clair d'où vous voulez aller avec tout ça?
Oui, l'histoire est bouclée, on sait très bien où on va, il reste à mettre ça sur papier, mais le deuxième tome est en chantier. Là.
On a déjà une date de sortie espérée?
Espérer, ouais, bon, ça serait bien que ce soit à peu près à ce temps-ci l'année prochaine, non?
Donc pour pas trop laisser d'attendre, dans le fond, lecteur.
Non, c'est ça, mais je pense que c'est un peu surfait, cette croyance-là, que le lecteur n'achètera pas l'album s'il se déroule trop de temps entre les deux, là. Non. Il y a quelques mois de plus, je crois pas que ça fera une différence.
Non, mais les lecteurs peuvent être un peu impatients. On peut avoir envie de savoir la suite. Ça finit avec un gros, comment dire en anglais, un cliffhanger. Alors, on veut savoir ce qui arrive.
Oui, puis vous avez remarqué aussi que la dernière page n'est pas vraiment la dernière non plus.
Mm-hmm. Effectivement.
Petit clin d'œil à la fin.
Alors, à découvrir, en fait, disons-le, donc, cette série Reconquête, tome 1, La Horde des Vivants, c'est chez Lombard. François Miville-Deschênes, merci beaucoup.
Mais ça m'a fait plaisir. Au revoir.
Au revoir. Alors, donc, voilà, petite invitation qu'on vous lance. Et donc, cette axolote à rechercher également, un petit défi qu'on vous lance. On vous pourrez pas dire qu'on vous laisse pas de défi ici à la vie en BD. Antenne de CKRL, Raymond Poirier avec vous jusqu'à 18h30 pour l'émission La Vie en BD. Je vous invite d'ailleurs à visiter notre blog lavieenbd.wordpress.com. Petite mention au passage, Art Spiegelman, l'auteur de Mars, qui était de passage à Montréal tout récemment pour donner une conférence. Et en fait, je retiens un article du Devoir. Deux petits paragraphes que j'ai trouvé bien intéressants, en fait, concernant l'évolution de la bande dessinée. Il dit, lui, qu'alors que les éditeurs de BD parlent surtout de succès par les chiffres, lui, donc, préfère plutôt évoquer un art qui s'immisce dans la vie culturelle des gens en raison de sa capacité à expliquer les choses complexes facilement. Il dit, je cite, « Comme le fait notre cerveau, la bande dessinée donne des représentations par l'image. Sa langue est proche du langage parlé et elle devient alors un outil commun pour expliquer bien des choses. Il suffit d'aller sur Google pour s'en convaincre. Le mot BD est partout. On le voit avec les mots économie, sexe, université, sciences, cinéma, politique. Mieux, alors que l'industrie du livre s'érode, que l'on parle de fermeture de librairies, la bande dessinée et les romans graphiques, eux, continuent de grimper. Au point même où M. Spiegelman crée un peu en disant, regardez, ça va tellement bien qu'à un moment donné, ça ne pourra pas s'empêcher de mal tourner. Mais pour l'instant, donc, il voit l'avenir de la bande dessinée d'un très, très bon œil. Et parlant de BD également, on est là pour ça. Hier, il y avait lancement chez Phylactère du nouvel opus de Philippe Girard, Rewind. On en a parlé il y a quelques émissions de cela. On avait eu le plaisir de recevoir M. Girard en entrevue. Et petite mention au passage, en fait, si vous n'avez pas encore jeté un coup d'œil à cet album, en fait, c'est un peu dans la suite directe de la visite des morts, en fait, un protagoniste qui est au cœur de Rewind, qui était également à l'intérieur de la visite des morts. Un album que, personnellement, j'ai surtout apprécié pour sa structure, en fait, au niveau cinématographique, on pourrait faire peut-être la comparaison avec Cours la Cour, dans la mesure où c'est une même situation qui est répétée plusieurs fois, mais chaque répétition nous donne accès également à plus d'informations sur ce qui entoure cette situation pour bien en saisir les ramifications. Ici, on parle de 5 variations, donc 5 morts différentes pour ce personnage-là qui, pour survivre, en fait, doit choisir de se jeter dans les bras d'une femme inconnue. Il changera de décision, bien entendu, à chaque variation. avec des conséquences pas nécessairement heureuses dans chacune des situations également. Donc, on le retient de mon côté, surtout pour le style, justement, pour ce côté narratif que j'ai trouvé très intéressant, très stimulant, dans la mesure où c'est le genre de BD où ça vaut la peine de la relire peut-être une ou deux fois de fil pour bien, justement, saisir les éléments scénaristiques et également vivre, entre guillemets, la BD de deux façons différentes selon le rythme que l'on y collera. Alors, une BD qui vaut le détour, si vous avez l'occasion, jetez-y un coup d'œil. Je n'en dirai pas plus. On prend une courte pause et encore à venir, mais notamment, on parle de cinéma et bande dessinée avec Thomas-Louis Côté et on jette un coup d'œil à l'événement Cap et Kimono.
Les ingénieux et les citoyens engagés du quartier Limoilou vous invitent à sa journée de l'éducation. Venez célébrer le plaisir d'apprendre sous toutes ses formes. Du soccer jusqu'au tai chi taoïste en passant par le skate et le zumba, la grande diversité de Limoilou et des gens qui y habitent rayonnera en cette belle journée de célébration. C'est un rendez-vous ce samedi 1er octobre de 10h à 15h à l'école Jean de Brébeuf sur la 8e avenue au coin de la 18e rue. Informez-vous au Centre Solidarité Jeunesse au 418-524-4199.
La 21e édition des Rendez-vous Estrade, du 6 au 10 octobre dans le quartier Petit Champlain. 5 jours de musique, de chansons, d'ateliers, de danse, d'animation, sans oublier la joute chantée et la randonnée. Plus de 40 artistes de la Belgique, de la Bretagne et du Québec. À Lelange, jusqu'aux petites heures, Gentil Corum, Les Quêteux, Gabriel Boutillier et bien d'autres. Les Rendez-vous Estrade, une vision contemporaine des traditions vivantes, des cultures d'ici et d'ailleurs. Estrade.qc.ca.
Remember how I'm going to live forever.
Lundi, 17h30, le théâtre et la danse sont à l'honneur au 89.1 avec les Enfants du Paradis, en compagnie de Robert Boisclair. Seulement au 89.1.
Cultive tes goûts.
Cette soirée est une présentation du Bal du Lézard qui, à l'image de CKRL, vous offre une diversité colorée. 1049 3e avenue, 418-529-3829.
Vous êtes toujours à l'écoute de CKRL, l'émission La vie en BD qui se poursuit. Et peut-être qu'annoncé en introduction et avant la pause, on va porter un petit regard sur un événement qui se prépare, qui s'en vient très très prochainement à Québec. Il s'agit de l'événement Cap et Kimono. C'est une activité qui est dédiée notamment à l'univers du manga, de l'animation japonaise, des jeux vidéo, du fantastique, de la science-fiction, de l'horreur, des comics également. Ça va se passer à l'Université Laval, au pavillon Alphonse Desjardins. Et pour nous en parler, on est en compagnie de la porte-parole de l'événement, Marie-Camille Carrier. Bonjour.
Bonjour.
Alors, j'en ai fait une petite définition. Est-ce qu'il y a des éléments à rajouter à cette définition-là?
Je pense que tu as très bien résumé un peu c'est quoi le festival. Tu as vraiment développé toutes les thématiques qu'on a. Donc, animé, comique, jeux vidéo, fantastique, horreur, jeux de rôle, grandeur nature aussi. On a une partie médiévale.
Et pourquoi décider de faire un événement à Québec dédié à ces thématiques-là?
C'est parce que mon conjoint et moi, on est à la base des grands amateurs de tout ce qui touche un peu à toutes ces thématiques-là. Donc, nous, on se promène souvent de convention en convention, autant au Canada qu'aux États-Unis. Et on se dit, Québec, c'est dommage qu'on n'ait pas un festival comme ça. Il y a le marché pour ça. Il y a une bonne base de fans, d'amateurs qui sont prêts à se déplacer pour aller à des genres d'événements comme ça. Donc, on s'est dit, mais pourquoi pas pas essayé d'en partir un à Québec et ça a bien marché. La réponse a été bonne.
Oui, parce que l'année dernière, c'était la première édition. Et s'il y a des gens qui se levaient le sourcil en disant, y a-t-il vraiment la clientèle? Vous avez accueilli 500 personnes, je pense, à votre première édition.
Exact, oui.
Donc, c'était déjà un bon succès sur lequel construire.
On était vraiment contents pour une première année. On n'avait pas d'attente en particulier. Fait que on a vu tous les gens costumés qui sont déplacés nombreux, qui sont passés le mot pour venir, pour se déplacer, planifier leur fin de semaine, leur voyage pour être à Capri-Kimono. Fait qu'on était vraiment contents de l'enthousiasme.
Et est-ce qu'on pourrait placer ça un peu aussi dans une montée en popularité? Bon, oui, on parle de médiéval, science-fiction, horreur, mais j'ai l'impression, en fait, pour moi, ça sonne aussi beaucoup manga et comics. J'ai l'impression que ces gens-là montent beaucoup en popularité présentement au niveau de la BD.
C'était notre thématique de base. On a décidé d'élargir nos horizons pour cette année. Donc, on va voir si on continue vers cette tangente-là. Mais à la base, c'est Capri-Kimono. C'est pour ça aussi le nom, la cape de super-héros, le kimono japonais pour notre base d'animation japonaise et de comic book. Mais oui, effectivement, ça se développe. On le voit ici, comme par exemple à Québec, il y a des nouveaux marchands qui se trouvent, comme le Fanamanga, qui sont la preuve qu'il y a un intérêt pour ce genre de thématique-là.
Et au niveau, en fait, de l'univers qu'on découvre, parce qu'en fait, le manga, notamment, en fait, il y a la bande dessinée, mais j'ai l'impression, en fait, qu'il y a aussi tout l'univers autour de ça. On parlait de costumes tout à l'heure, et le reste, donc ça se limite pas seulement à la BD, ça peut pratiquement devenir un mode de vie, là, en exagérant un peu.
Oui, c'est un mode de vie. Comme il y a des gens vraiment qui s'en feront un honneur de se décrire comme un otaku, même si dans le vrai sens du mot, c'est vraiment péjoratif. C'est quelqu'un qui reste dans son sous-sol puis qui sent pas, qui a aucune vie. Mais ici, otaku, c'est quelque chose qui est un peu bien perçu parce que ça veut dire que c'est quelqu'un qui est ouvert à la culture japonaise et puis qui prend plaisir à la partager puis à vivre dans ce mode de vie-là.
Et il faut préciser aussi, Camille, Marie-Camille Carrier, en fait, quand on parle de se costumer, exemple, pour aller à Capri-Kimono, on n'invite pas les gens à se déguiser, on invite les gens à faire ce qu'on appelle du cosplay. Il y a une différence là, entre se déguiser puis le cosplay.
Exact. Cosplay, ça vient du costume playing. Donc, les gens personnifient le personnage qu'ils veulent, autant que ça soit tiré d'un jeu vidéo d'un comic qu'ils ont lu ou d'un animé qu'ils ont vu à la télévision. Donc, d'habitude, en règle générale, ils essaient de y ressembler le plus fidèlement possible, puis d'en tirer les traits. Quand les gens leur demandent de les prendre en photo, ils disent « Fais-nous la pose de quand il bat telle affaire. »
Ça, faut le connaître là, pour pouvoir faire la pose correcte. Sinon, les gens le savent que c'est... Non, finalement, on ne le connaît pas tant que ça.
Exact. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens costumés, mais c'est pas obligatoire. Les gens nous le demandent souvent. Est-ce qu'il faut vraiment être costumé pour assister au festival? C'est non. C'est tant que tu veux t'ouvrir à ces thématiques-là, si tu veux en apprendre ou tu veux juste partager ta passion avec plein d'autres mondes qui trippent sur la même chose que toi, c'est fait pour ça, le festival.
Et puis en même temps, il faut bien avoir des gens aussi qui regardent les gens qui sont costumés.
Il y en a beaucoup.
Et est-ce qu'il y a des séries qui sont un peu incontournables quand on parle de cosplaying, par exemple, ou si je me prépare à aller à Capri-Kimono en fin de semaine, il faudrait peut-être que j'essaie de regarder à tout le moins sur Internet telle ou telle série pour bien saisir un peu l'univers?
Il y a des modes dans les festivals, dans ce genre de conventions-là. Il y a eu la grosse mode où est-ce que tout le monde était des Pokémon, où est-ce que tout le monde était des Sailor Moon et des Dragon Ball. Là, quelques années, c'était les Naruto, mais là, on voit que ça baisse un petit peu, que c'est d'autres choses qui reprennent. Il y a toujours des classiques comme les Mario Bros, les Zelda, ça, il y en a toujours plein. Donc, ça dépend à chaque année. C'est vraiment le fun de voir un peu les statistiques qu'on peut voir en checkant le monde un peu comment ils sont costumés.
Et d'ailleurs, en fait, si on explore un peu le côté manga, animation, il y a des projections de films pratiquement en continu à l'intérieur de l'événement, là.
On a une bonne programmation de ce côté-là. Vraiment, on est allé chercher autant des choses qui sont connues, public grand général, que autant des choses obscures comme, par exemple, un Batman au Pakistan ou...
J'ai fait un geste de surprise pour situer les auditeurs, auditrices, là.
C'est vraiment des choses vraiment qui se trouvent dans les fins fonds de l'Internet, mais qu'on se dit, oh, faut montrer ça, faut que les gens découvrent le côté obscur des autres choses qu'ils pensaient pour acquis, comme pensaient qu'ils connaissaient bien.
Donc, on y va un peu dans une programmation côté film, donc un équilibre entre des nouveautés, des trucs un peu incontournables récents, des classiques et des trucs bizarres.
Exact.
Et, quelques titres encore là, peut-être pour lancer aux gens en idée aussi, si on décide d'aller explorer un peu l'univers de l'animation en prévision de la programmation de Capikimono. Est-ce que tu aurais des idées de films?
Je sais qu'on a en primeur un court-métrage japonais, You and Me égale Love, que je me souviens plus du nom de la personne qui l'a réalisé, mais c'est grâce à Cinéma Passion et qui nous ont aidé à avoir l'exclusivité là-dessus. Je sais aussi qu'on a quelques épisodes de Sailor Moon, donc c'est vraiment le grand retour de ça. Pour le reste, je te dirais que c'est des autres choses obscures. Sinon aussi, il y a une coupe de X-Men puis de Iron Man aussi, je pense.
Donc, on va piger un peu partout. La programmation, de toute façon, en fait, je le mentionne tout de suite, capkimono.com, en fait, pas de i, pour aller trouver le détail de l'événement. Et sinon, en fait, on a fait quelques mentions plus spécifiques, mais de manière générale, est-ce qu'il y a des activités phares, des faits saillants, des incontournables peut-être la fin de semaine?
Oui, donc il y a la mascarade, bien sûr, qui est l'événement le plus populaire de la convention, le concours de costumes, où les gens défilent sur la scène pour montrer justement leur talent en couture et en confection d'accessoires. C'est vraiment très impressionnant à chaque année de voir la chorégraphie, en plus qu'ils interprètent avec leur costume pour le personnifier davantage. On a également un concours d'AMV qui est concours de montage vidéo, que les gens prennent leurs animés préférés, qu'ils font du montage avec une musique de leur choix et qu'ils présentent ça au concours. On a également aussi, l'année passée, on a eu ça pour la première fois, la marche des zombies qui a vraiment été un succès énorme. C'était vraiment quelque chose de spécial, ça revient encore cette année. Et on a aussi des tournois de gladiateurs médiévaux. Donc, si vous voulez voir des gens en armure se tapocher dessus avec des épées en mousse, c'est l'endroit pour ça. Et en soirée, samedi soir, on a un spectacle de cracheurs de feu et de jongleurs.
Et parallèlement, il y a un volet aussi, il y a des panels, il y a des rencontres d'auteurs, plusieurs personnes qui vont être présentes aussi pour un volet plus littéraire.
Oui, on a les auteurs de Solaris et des éditions à lire qui sont là, sûrement qui vont nous parler de leur 15e anniversaire. Et Solaris, comme les gens le savent, c'est la plus vieille revue de science-fiction qui existe depuis... Je me souviens combien d'années, mais en tout cas, c'est vraiment les plus vieux. Ça a été les premiers. On a également aussi les voix de Homer Simpson. Donc, M. Hubert Gagnon qui va être là, qui fait aussi la voix d'Optimus Prime. On a Gilbert Lachance qui fait la voix de Jack Sparrow, qui fait aussi la voix du Joker dans le film de Dark Knight. Donc, ils vont être là pour nous parler de leur expérience de doublage. Et on a aussi une cosplayeuse professionnelle, Marie-Claude Bourbonnais, qui est très connue pour ses costumes en couleur, qui a participé à un projet de Cosplay for a Cause. Donc, elle amassait des fonds pour le Japon avec ça, avec ses calendriers.
Et je mentionne au passage, d'ailleurs, qu'une des collaboratrices ici à La Vie en BD, Pascal Roux, fait partie du panel d'auteurs science-fiction. Alors, vous pourrez également la rencontrer. Je rappelle le site capkimono.com. Et donc, Marie-Camille Carrier, porte-parole, on lance l'invitation à tous et à toutes d'aller découvrir ce pan de la culture manga, comics et le reste.
Oh oui, vous allez venir et vous allez aimer ça, j'en suis sûre.
Ah ben voilà, merci beaucoup.
Merci.
Et nous, ben, on repart avec un extrait de Saga and Swing et au retour, on jase avec Thomas-Louis Côté. Thank you. entend, c'est À toute vie, Téphir, tiré de cet album, donc Orgel Farger. On mettra un petit peu d'informations d'ailleurs là-dessus sur le blog de l'émission à lavieenbd.wordpress.com. Et on accueille un collaborateur ici de l'émission. Et donc on est encore dans les premières pour ce qui est des chroniques. On est bien content de le recevoir, Thomas Louis Côté, qui est directeur du Festival de la bande dessinée, Festival de la bande dessinée francophone de Québec. Bonjour.
Bonjour.
Ça va bien?
Ça va très bien, toi.
Ça va bien également. Et il faut dire, Thomas Louis, tu reviens d'un petit séjour, d'un petit détour vers Gatineau, parce que là-bas, il était en train de réfléchir à leur festival de bande dessinée.
Oui, ben exactement. C'est que il y a un événement qui s'appelait le Rendez-vous de la bande dessinée de Gatineau, qui a été présenté pendant 10 ans jusqu'à l'an dernier. Donc, un événement qui était présenté à l'automne, normalement. Et l'an dernier, suite à des problèmes internes, ils ont dû suspendre leurs activités pour une année. Question de se redéployer de meilleure façon. Et ce week-end avait lieu un forum pour rencontrer différents intervenants du milieu, autant des gens de un peu partout au Québec, principalement des gens de l'Outaouais. Mm-hmm. Parce qu'on peu connaissent nécessairement le milieu de la bande dessinée en Outaouais, mais il y a quand même des éditeurs comme Première Ligne, il y a l'École multidisciplinaire de l'image avec le seul programme universitaire en bande dessinée au Québec.
Donc c'est un milieu qui est très foisonnant dans le milieu de la BD, et donc on comprend facilement aussi pourquoi il y a un festival de BD dans cette région-là.
Donc il y a un bon public pour ça, puis il y a beaucoup d'intervenants pour le faire vivre, cet événement-là. Donc la rencontre de ce week-end, c'est vraiment pour discuter, rassembler les forces vives, puis voir un peu comment ils peuvent relancer l'événement.
Et un constat en terminant sur ce petit détour-là, notre côté, est-ce que tu as l'impression qu'ils sont repartis sur des bonnes bases?
Absolument. Ils ont mis en place un nouveau comité, un comité de relance, 15 personnes dirigées par Sylvain Lemay, qui est un des professeurs et fondateurs du programme de BD à l'Université du Québec en Outaouais, donc qui vont relancer ça. Puis j'ai bien hâte de voir, c'est prévu pour l'an prochain normalement à l'automne, donc j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qui va ressortir.
Mais pour l'instant, on a une bonne impression.
Oui, absolument, absolument.
Alors, on met ça de côté, on ferme cette petite parenthèse-là en ouverture de chronique, Thomas Louis, et on se lance dans le vif du sujet pour ce mois-ci, pour ta chronique mensuelle. Les Schtroumpfs qui sont apparus sur nos écrans, il y a Tintin qui s'en vient, il y a d'autres projets, il y a un Paul à Québec qui va se faire bientôt aussi pour la BD québécoise. Donc, de plus en plus, le 9e art s'en va vers le 7e.
Oui, bien, différent. Si on connaît au niveau américain, ça fait quand même longtemps que ça se fait avec les franchises de comics, tu sais, on en parle. Pense à Spider-Man ou Batman, Superman, c'est des franchises qui sont devenues des vrais blockbusters et qui ont engrangé beaucoup, beaucoup d'argent. Mais on voit, par exemple, là, avec les Schtroumpfs, qui ont été présentés dernièrement et qui ont aussi eu un grand succès, c'est tiré de la bande dessinée européenne quand même. Mm-hmm. Et peu de gens le savent, probablement, aux États-Unis. Donc, on voit arriver, comme tu disais, Tintin, qui va sortir au Québec en décembre. Ben, c'est un film qui est réalisé et produit par Steven Spielberg, Peter Jackson.
On reste plus dans des productions qui sont purement continentales, parce que souvent, la BD européenne, ils faisaient des adaptations, on pense à Lucky Luke ou Astérix, mais principalement, ça restait dans l'axe francophone.
Exactement, mais maintenant, ça déborde. Et autant... parce que le projet comme Tintin, les droits sont achetés depuis très longtemps par Steven Spielberg. On parle d'après la sortie de The Raiders of the Lost Ark, parce que quelqu'un lui avait fait une référence que son film ressemblait aux aventures de Tintin, puis il avait été voir ça, il avait finalement acheté les droits. Mais c'est quand même longtemps plus tard, presque 30 ans plus tard que le film se fait, mais à grands moyens aussi. Donc j'ai bien hâte de voir. Mais il y a plusieurs... projets qui ont eu lieu déjà au niveau de la bande dessinée européenne et qui ont été transposés au cinéma. Si on parle, tu parlais d'Astérix tantôt, ils sont rendus à leur 4e et c'est un très gros succès en Europe. Marie-Jeanne Satrapi en animation qui a remporté un énorme succès tant en Europe qu'aux États-Unis. Donc c'est toutes des belles façons de voir que la bande dessinée peut vraiment transcender le livre puis être transposé à l'écran.
Et j'ai l'impression que peut-être comparativement au roman, transposer une bande dessinée, ça pourrait paraître évident dans le fond en disant, la bande dessinée, c'est le storyboard. Ouais. Donc, on a simplement à mettre en image les dessins. Mais souvent, justement, comme c'est déjà un médium qui est très visuel, que dans bien des cas, les adaptations sont pas toujours heureuses.
Non, ça peut être assez boiteux même. Même si on regarde dans les adaptations qui ont été faites en Europe, des choses comme Is No Good, qui avait été vraiment un navet. Blueberry, la même chose. Pourtant, qui sont des histoires ou des univers qui devraient être très intéressants à exploiter, mais ils l'ont mal été fait.
Pourquoi?
Ouais, j'imagine c'est une question de scénaristes rendus là qui ont voulu trop, qui sont sortis peut-être de l'histoire originale pour essayer d'en faire quelque chose d'autre et ça passe pas. Il faut dire quelque chose qui est intéressant à lire, ne l'est pas nécessairement à voir à l'écran. Mais il y a quand même des belles réussites. Dernièrement, il y a eu des 13, entre autres en série avec Val Kilmer qui jouait le méchant dans la série. Ça, c'était très intéressant. Il y a eu Largo Winch aussi au cinéma que ça a fait un beau résultat. Mais de plus en plus, on le voit aux États-Unis où à peu près tout ce qui se fait en bande dessinée, les droits ont été achetés pour être éventuellement tourné en film ou simplement pour protéger, pour pas que ça le soit. Mm-hmm. Mais en Europe, il y a quand même beaucoup de droits qui sont achetés autant par des entreprises européennes que des entreprises américaines pour éventuellement tourner des films. Il y avait, entre autres, j'ai lu récemment Le Tueur de Jacques Hamon, qui a été acheté par une entreprise américaine avec laquelle Brad Pitt est impliqué pour tourner en film. Donc, c'est des séries qui risquent d'être fort intéressantes à voir au cinéma parce que la bande dessinée comme telle est très cinématographique.
Et exactement. En fait, j'ai l'impression qu'il y a un peu deux styles d'adaptation. Il y a ceux qui essaient simplement de transposer l'univers purement visuel, la BD. On pense, par exemple, aux adaptations de Lucky Luke qui n'étaient pas très réussies, mais où on misait trop sur le visuel. Il y en a d'autres où on se distance trop. Tu parlais de Blueberry. Il y en a d'autres où on décide de coller parfaitement aussi à qui a été proposé. Je pense à un roman graphique comme Sin City de Frank Miller, où l'adaptation, c'est pratiquement la BD. Donc, et là, l'album a été utilisé comme storyboard, et donc ça devient une matière première qui peut être si bien utilisée, extrêmement riche.
Et en plus, Frank Miller était impliqué dans le tournage du film, je ne suis pas sûr même, je crois que c'est lui qui l'a réalisé.
Oui, co-réalisé.
Donc, il a vraiment, lui, gardé là, ce que lui voulait proposé dans sa bande dessinée, leur transposer. Mais on regarde même Walking Dead, des choses comme ça, ils ont vraiment essayé de garder l'esprit en essayant d'être assez près de ce qu'est la bande dessinée. Il y a des choses, on parlait de Tintin tantôt, les premières adaptations de Tintin, la première est en 1947, une adaptation faite avec des marionnettes, mais les adaptations des années 60 avec Jean-Pierre Talbot, La Toison d'or et Orange Bleu, c'était quand même assez rigolo. Je sais pas si toi tu les as vus à l'époque, parce que ça a fait longtemps que c'est pas passé à la télé, mais reste que c'était très intéressant. Puis pourtant, c'était pas une adaptation d'album, c'était vraiment inspiré du personnage. Et je crois qu'il y a moyen de faire ça quand même avec plusieurs séries, de garder l'univers sans tomber à essayer de reproduire exactement les histoires ou la chronologie des histoires qui sont produites. Là.
Oui, en fait, c'est l'idée, c'est dans l'équilibre. On parlait d'une série comme Le Tueur qu'on recommande d'ailleurs au passage, mais ça, j'ai l'impression qu'on peut prendre carrément le scénario, le transposer, l'histoire s'intègre, est déjà tout intégré, mais inversement, on peut aller jouer avec d'autres séries en s'imprégnant de l'univers, mélangeant un peu des albums, puis proposant quelque chose de très intéressant. C'est ce qui va être fait de toute façon avec Tintin.
Oui, donc le Crabe aux pinces d'or et les deux albums de Le Trésor de la Licorne, donc le diptyque. Donc ça risque d'être effectivement fort intéressant. Les images qui ont été présentées jusqu'à maintenant sont très intrigantes, en tout cas.
Et c'est peut-être là l'autre élément, je parlais du visuel, justement, qui est très présent en BD. Donc la question, j'imagine, côté réalisation, c'est comment composer avec ça. Marjane Satrapi, par exemple, Persepolis, c'était très en accord, c'est la continuité du livre. Le Tintin est très inspiré de l'esthétique qu'on présente, mais parallèlement, on sait, par exemple, qu'un Paul à Québec, lui va être fait avec des comédiens, on ne sait pas exactement dans quel style visuel versus la BD. Donc, est-ce qu'on colle à la qualité graphique du volume ou est-ce qu'on essaie de s'en distancer?
Je crois que dans le cas de Paul à Québec, pour en avoir discuté avec Michel Rabagliati, lui-même est impliqué dans la scénarisation et dans la production du film. Donc, lui a vraiment la volonté de s'en tenir à son livre et à l'esprit de son livre, si on veut. C'est sûr que dans le cinéma, tu ne peux pas tout faire exactement la même chose que le livre, mais au moins de garder la trame narrative ou d'éviter de rajouter des conflits qui n'étaient pas présents nécessairement dans l'album. Donc, je pense que la présence de l'auteur, on en parlait pour Frank Miller tantôt, mais la présence de l'auteur dans la production permet justement d'essayer de garder cette continuité-là ou toutefois de cautionner les changements qui sont faits à la trame narrative. Mm-hmm. Donc, il y a des gens comme Marie-Jeanne Satrapi qui prépare un poulet aux prunes qui va être transposé aussi. Donc, c'est à voir si elle va vraiment tenir la même ligne que ce qu'elle a fait pour Persepolis, c'est-à-dire garder à peu près intégral son livre.
Et Thomas-Louis Côté, qu'est-ce qui fait, d'après toi, que présentement, justement, autant Hollywood que les studios européens semblent redécouvrir peut-être la bande dessinée comme premier matériel? Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont plus d'idées, donc ils vont voir dans ce qui est fait, ou parce qu'ils viennent de se rendre compte qu'il y en a plein d'idées qui existent, qui attendent juste d'être récupérées, intégrées?
Je pense pas que ce soit le fait qu'il n'y ait plus d'idées, mais... le Hollywood et tout ce qui est cinéma, dans le fond, c'est une grosse entreprise. Et de voir le modèle américain où des comics deviennent des succès énormes, je crois que les entreprises européennes ont commencé à se tourner vers ce qu'eux ont. Et ils ont quand même un bagage très riche au niveau d'histoire, autant dans du policier, si on pense à Black Sad, qui pourrait faire quelque chose d'assez intéressant, Jérôme Cobloche, qui est très cinématographique quand on lit, que des choses pour jeunesse. T'sais, je lisais récemment que Les Crostons, qui est une série quand même du journal Spirou, dont on a plus entendu parler depuis des années, ben ils sont en train de faire un projet de cinéma avec, un peu comme ils ont fait avec les Schtroumpfs, c'est-à-dire mélanger des comédiens réels avec des personnages animés. Mais non, c'est vraiment l'idée de piger dans ce riche bassin de scénarios potentiels qu'est la bande dessinée, et avec l'historique de la bande dessinée qui a au-dessus de 100 ans, quelqu'un qui fouille peut trouver vraiment des belles perles, je crois.
Et si on veut aider les gens à fouiller, si on avait quelques titres à lancer comme ça que tu aimerais bien, Thomas-Louis, ouais, voir en film, là, quelle BD, quelle série que tu aimerais voir en film, toi?
Hey, Colin, je parlais tantôt de Jérôme Cobloche, qui est une série que j'aime bien. Puis je trouve qu'il y a plusieurs des tomes qui feraient de bonnes histoires, puis qui est un petit brin d'humour, un côté policier. Sinon, dans du jeunesse... Je pense que à l'inverse de dire quelque chose que j'aimerais voir, quelque chose que j'aimerais moins voir, Spirou, que j'aurais de la misère à voir en film.
Je sais pas, avec les origines qui ont refait la nouvelle série des préquels, moi je trouve qu'il y a un petit potentiel là.
Ah, peut-être, mais ça serait bizarre de voir un comédien habillé en groom qui...
Pour être crédible, effectivement. Ouais. On lance la question, tiens, d'ailleurs, si vous avez des idées... De séries qui passeraient bien vers le film, n'hésitez pas à aller commenter sur le blog. On va mettre le podcast de l'émission un peu plus tard aujourd'hui, alors allez y faire un tour et lancez-nous vos idées. En fait, on verra s'il y en a qui ressortent un peu plus que d'autres.
Okay. Ben, bonne soirée, Raymond.
Ben, merci à toi, Thomas-Louis, et on se dit à bientôt.
À bientôt.
Ah ben voilà, nous, c'est ainsi qu'on se dirige vers la fin de cette édition de La Vie en BD. Dans quelques instants, c'est la gang de 100% Dynamite qui va être avec vous. Et ben nous, on vous invite bien entendu à être de retour avec nous la semaine prochaine avec beaucoup d'entrevues à savoir féminines. Iris va être avec nous pour parler de Le Stitcher. Également, Eva Rollin sera de passage pour Mademoiselle de tome 4. Tout ça et plus. Alors à la semaine prochaine, c'était Raymond Poirier au micro. Ça a été un plaisir d'être avec vous ce soir.